Il est 13h30 sur France Inter. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Sarvajan.
Alors comme ça, vous allez nous parler des rites au Moyen-Âge.
Oui, parce que notre mission à nous, c'est comprendre ce qui fut.
Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Que demandez-vous, mon fils ?
D'être accueilli dans la communauté et de servir Dieu, mon père.
La vie à laquelle vous aspirez est très dure. Êtes-vous prêt à l'accepter, à marcher sur la voie de l'obéissance et à supporter l'infamie pour l'amour du Christ ?
Oui, par la grâce de Dieu.
Êtes-vous libre de naissance, saint d'esprit et de corps et exempt de maladies incurables, mon fils ?
Oui, par la grâce de Dieu.
Jurez-vous de n'avoir pas de dettes ou commis d'irrégularités ?
Oui, par la grâce de Dieu.
Êtes-vous marié ou lié par une promesse de mariage ?
Non, par la grâce de Dieu.
Votre demande est donc acceptée.
Des objets qu'on manipule, ici l'habit, à l'entrée dans une communauté monastique, il est aussi question du mariage et donc de l'anneau. Des gestes dont l'enchaînement semble pris dans un ordre parfaitement réglé. Des mots qui, comment dit-on aujourd'hui, score, disposent d'une puissance performative. Spontanément, nous avons tendance à penser que les rites, tels que nous les voyons encore pratiqués, sont restés invariables au fil des temps, qu'ils sont tendus tout droit vers l'éternité et qu'ils plongent leurs racines dans des temps très anciens. Et en la matière, nous attribuons au Moyen-Âge des qualités particulières. Sans doute la vie y était-elle plus ritualisée qu'aujourd'hui. Ça ne signifie aucunement que les rites constituaient une toile de fond immobile. Ils avaient aussi leur vie. Ils étaient pris dans des champs de force locales, sociales. Ni les rois, ni les seigneurs, ni les villes, ni même l'Église, quels que fussent leurs efforts, ne les contrôlaient entièrement.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-Claude Schmitt. Bonjour Jean-Claude Schmitt.
Bonjour.
Vous avez la bonne idée de rééditer, c'est aux éditions Pluriel, le grand dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval que vous aviez dirigé naguère avec le regretté Jacques Le Goff. Il y a près d'une centaine d'articles. J'ai cherché l'article religion dans lequel on aurait pu insérer l'article rite. Mais vous êtes bien un historien de la religion, non ? Il n'y a pas d'article religion.
Je ne me dis pas historien de la religion médiévale parce que le religieux est partout dans la culture, dans la société médiévale, et ne constitue pas un domaine à part, et surtout ne fait pas l'objet d'un choix individuel des individus, n'est-ce pas, des personnes, comme aujourd'hui où on peut choisir d'être chrétien, d'être juif ou d'être agnostique.
Alors l'article rite, en revanche, occupe un large espace. On va essayer de définir ce que c'est qu'un rite. On a l'impression qu'il faut des étapes, qu'il faut de la répétition, il faut des mots.
Oui, il faut un peu tout ça. C'est évidemment une action exceptionnelle, c'est-à-dire qui est tirée du commun, qui est formalisée, qui est répétitive, qui peut être répétée. C'est une action qui comporte beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois des mots, des sons, des gestes, des objets, des lieux particuliers, des personnes qui peuvent être particulières aussi, soit qu'elles ordonnent le rite, soit qu'elles y assistent et qu'elles y participent sur un ton mineur, pourrait-on dire. Et enfin, il faut songer à l'effet des rites, ce qu'on appelle en effet la performativité, c'est-à-dire que le rite...
Le mot est récent. Hein.
Il y a de l'anglais d'ailleurs. Les rites sont une performance, ça c'est un mot français, une performance, c'est-à-dire le déroulement d'une action, mais ils ont une performativité, c'est-à-dire un effet sur la cohésion sociale, mais peut-être aussi un effet sur les relations entre le visible et l'invisible, entre les hommes et les puissances célestes.
Alors pour illustrer, on va aller vers un rite central et vers le centre d'un rite central. Vous expliquiez que l'air qu'on respirait était chrétien au Moyen-Âge. Vous disiez que le rite était répété tous les jours, la messe, la consécration du pain et du vin par les paroles du prêtre. Et tous les dimanches, sur France Culture, ça fait partie du cahier des charges tiré de la jurisprudence républicaine, la messe diffusée ici à la cathédrale Saint-Louis de Versailles.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. »
Bon, c'est la messe en français. Jusqu'ici, on n'a pas parlé parfaitement français. Et j'imagine qu'au Moyen-Âge, c'était plutôt en latin. Les rites peuvent changer d'apparence. Mais, alors, les auditeurs qui ne croient pas tous à la transsubstantiation vont nous dire le pain et le vin ne changent pas d'apparence.
Non, c'est bien ce qu'on dit au Moyen-Âge aussi. C'est ça justement le mystère qui est attaché à ce rite le plus important de la culture, de la société médiévale, hein, qui est au cœur de la messe, la liturgie de la messe, et, mais qui met en scène et donne forme à toute la société, à tout le corps chrétien, la société comme corps, autour de ces quelques paroles et de ces quelques gestes, puisqu'il y a aussi des gestes de bénédiction, prononcés par le prêtre et par lui seul, à ce moment-là, qu'on appelle le canon de la messe. Et c'est une formule et des gestes qui n'ont absolument pas changé depuis les origines du christianisme jusqu'à aujourd'hui, et qui sont censés être les paroles mêmes du Christ, répétés par le prêtre.
Et qui produisent un changement réel, même s'il n'est pas apparent.
Et un changement fondamental, c'est un sacrifice, mais pas un sacrifice sanglant.
Est-ce que tout le monde y croyait ? Moi, on m'expliquait dans mon enfance qu'il y a un copiste qui copiait donc le canon de la messe, et il s'interrogeait quand même, et il avait mis entre parenthèses « Mysterium Fidei », me disait-on. Et maintenant, c'est devenu, dans la messe en français, « Il est grand le mystère de la foi, la métamorphose des rites ».
Oui. Alors, il s'est naturellement codifié au fil des siècles. Et c'est au début du XIIIe siècle que le quatrième concile de Latran donne la forme canonique, peut-on dire, et obligatoire, à ce rituel-là, qui doit être prononcé exactement selon ces paroles, que ce soit en latin ou en français.
Mais alors, s'il y a des erreurs, s'il y a des variations, si les formes ne sont pas parfaitement respectées, si le prêtre est simoniaque, je reprends des mots du Moyen-Âge, ou nicolaïte,
le rituel,
débauché, pas célibataire en tout cas.
Le sacrement, puisqu'il s'agit d'un sacrement, le sacrement est valide, quel que soit l'état moral du prêtre. Mais bien sûr, il y a toutes sortes de précautions qui sont prises. Par exemple, il ne faut pas que l'hostie tombe. Que se passe-t-il si l'hostie tombe et qu'une souris la mange ? Si elle n'est pas consacrée, ça n'est pas grave, ce n'est que du pain. Mais si elle est déjà consacrée, à ce moment-là, évidemment, se pose un très grave problème.
Alors ça, c'est l'Église qui, en tant que corps mystique du Christ, décide de tout cela jusque dans le détail.
Oui.
Et vous décrivez dans l'article « Rite » du dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval, nous sommes dans une émission raisonnée aujourd'hui, que l'ombre de l'Église s'étend sur tous les autres rites. On va prendre l'exemple du mariage. Quand les époux se prennent par les épaules, il n'y a pas besoin de prêtre. Est-ce qu'il y a besoin de prêtre tout de suite, dès l'abord, pour se passer l'anneau ?
Ben c'est là qu'il faut faire intervenir l'histoire, justement. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, il y a des unions qu'on pourrait appeler matrimoniales dans toutes les sociétés du haut Moyen-Âge, qu'on appelle les sociétés barbares, par exemple, franques ou autres. Mais il y a des rites, par conséquent, sans doute peu codifiées, mais qui existent, mais qui sont l'apanage des familles et du père, en particulier, des pères, mais surtout du père, sans doute, de la mariée, qui célèbre ces rituels dans un espace domestique.
Chez lui.
Chez lui, avec tout le groupe de parenté. Et petit à petit, on voit que l'Église s'intéresse à la question de la parenté, justement, aux interdits de mariage et à la ritualisation du mariage. Et petit à petit, elle en fait un sacrement. Ça va faire partie des 7 sacrements qui sont institués ainsi, sous cette forme, au XIIIe siècle. Et c'est le sacrement qui revient vraiment aux laïcs par excellence. Ce sacrement, il suppose que le prêtre joue un rôle, cette fois, essentiel, devant, non plus dans la maison, mais sous le porche de l'église, où il joint entre ses propres mains les mains des époux. Et en effet, un anneau est passé, au moins dans le doigt, de la mariée.
Pour que l'ombre de l'église s'étende, il faut que recule aussi la possibilité d'interprétation par la communauté. Enfin, il en reste dans le mariage une trace. On demande au Moyen-Âge et aujourd'hui encore, oui, aux gens qui sont présents, s'il y a un motif de refuser
le mariage. Bien sûr, s'il y a déjà une promesse de mariage, par exemple.
Quant au peuple et à la multitude, il lui reste aussi la possibilité, peut-être, de faire charivari. Ici, nous sommes dans le film Martin Guerre, à la fin de notre période.
En ce dimanche de la Saint-Michel, en l'église d'Artigat, nous accueillons Bertrand de Rolle et Martin Guerre.
Je, Martin, donne mon corps à toi, Bertrand, en loyal mari.
Je le reçois. Je, Bertrand, donne mon corps à toi, Martin.
Je le reçois.
Et moi, je vous unis en mariage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Les enfants, il faudra nous faire de jolis petits.
Je ne veux pas dormir la nuit. Change de mari.
Voilà, possibilité pour la communauté de réagir quand le mariage ne lui paraît pas symétrique, égal, conforme. C'est ce que vous dites, être la clamor de la multitudo.
Oui, c'est la foule qui proteste, qui n'est pas d'accord. Et cela se produisait en particulier lorsque un veuf, souvent un homme âgé, qui avait déjà été marié, etc., prétendait épouser une jeunesse. Et à ce moment-là, il la prenait sur le stock des jeunes mariés promises aux jeunes en rapport d'âge. Et c'est cela qui proteste, non pas, à vrai dire, pour interdire le mariage, mais pour toucher une compensation. Il fallait leur payer à boire, et les choses rentraient dans l'ordre, et le mariage avait lieu.
Jamais, pour finir cette première partie, on peut tirer cette conclusion. L'Église, qui n'a pu bâtir une théocratie au Moyen-Âge, n'a pu étendre son influence totalement sur les rites. Oui. En témoignent d'ailleurs toutes les critiques que chaque hérésie multiplie contre la prolifération, la profusion, la richesse excessive des rites.
Oui, parce que les rites ecclésiastiques affirme la médiation obligatoire des clercs entre les hommes et Dieu. Et c'est ce que refusent les hérétiques à partir du XIIe siècle, et c'est surtout ce que va refuser la Réforme. D'où, évidemment, la transformation. Il y a bien des rites dans l'Église réformée aujourd'hui, mais une transformation assez radicale et une sorte de, d'épuration, pourrait-on dire, du ritualisme liturgique du Moyen-Âge.
Alors, on continue avec vous, Jean-Claude Schmitt, l'exploration d'un seul des 100 articles du dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval, l'article rite. Je vois pas d'article musique. Vous trouvez qu'il y a des articles qui taillent trop large. Bon, alors on est allé chercher quand même dans le trésor de la chanson française. Elle est venue du XVe siècle, elle a été transformée selon les époques, et chantée ici dans une version 1950 par la grande dame blanche de Saint-Germain-des-Prés, Cora Vauquer, c'est la chanson du roi Renaud.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Quand elle fut dans l'église entrée, le cierge en lui a présenté, aperçut en s'agenouillant la terre fraîche sous son banc. Dites-moi, ma mère, mamie, pourquoi la terre est rafraîchie? ma fille, ne vous le puis cacher. Renaud est mort et enterré. Renaud, Renaud, mon réconfort, te voilà donc au rang des morts. Terre, ouvre-toi, terre, fends-toi, que j'aille avec Renaud, mon roi. Terre s'ouvrit, terre fendit, et si fut la belle engloutie.
Pas de plus belle version à l'époque que celle de Cora Vauquer. Cependant, avec Jacques Sigal, on a cherché en vain un des couplets. Ah, qu'est-ce que j'entends sonner ici, ma fille, c'est la procession qui sort pour les rogations. Alors, les rogations, c'est un rite de société agricole, et Cora, en 1950, a évité cette allusion. Comme quoi, c'est votre leçon principale, les rites ne s'inscrivent pas dans un monde stable et ne sont pas stables.
Non. Tout change, c'est l'histoire même. Hein, tout change et il y a naturellement d'abord des rites qui ont une très grande antiquité, c'est-à-dire qui se nourrissent de toute une tradition en amont, biblique par exemple. Il y a des rites qui naissent à certaines époques. Vous avez mentionné à l'instant les rogations. On sait comment, au haut Moyen-Âge, les rogations, cette procession, à un certain moment de l'année...
C'était quoi, avant l'Ascension
Oui, c'est... au printemps, effectivement, les rogations sont un rite qui est destiné à produire les fruits, n'est-ce pas, à faire venir les fruits de la terre. Mais ça n'est pas seulement un rite rural. On a des rogations dans les villes aussi. Hein. Il y a toutes sortes de parcours urbains, donc également moment des rogations dans les villes. Ce type de procession, par exemple, peut naître à un moment donné. Et il y en a bien d'autres à toutes les époques. Et puis, il y a ce jeu-là. Ce qui est important, peut-être, dans les rites, c'est qu'ils sont toujours la scène de négociation entre des groupes. Et donc des rapports de force. Et par conséquent, en fonction de ces rapports de force, les rites évoluent.
Alors, négociation entre les groupes, on a parlé de l'Église et du fait qu'elle ne pouvait pas imposer un contrôle total. Je voudrais qu'on parle des groupes des laïcs. On pourrait parler, par exemple, du monde des chevaliers. Ici, c'est un extrait de la téléscolaire telle qu'elle existait dans les années 1970. Il s'agit de l'entrée en chevalerie de Bertrand. On entre en chevalerie à quel âge? 13 ans, 14 ans, 15 ans?
Oui, c'est un rite d'initiation de l'adolescence, hein, avant le passage à l'âge adulte.
Et là, on va entendre parler les membres d'une même famille. Tout ça semble se passer entre soi, entre associés du groupe des militesses.
Après qu'il ait pris un bain, on jette sur les épaules du futur chevalier une étoffe de soie, puis Bertrand prend le chemin de la chapelle. Le jeune Bertrand va venir s'agenouiller sur ce tapis, et c'est véritablement maintenant que va commencer la cérémonie.
Voici l'instant solennel, mon fils. Baise cette épée. Je l'ai portée dans les croisades, avec notre roi et à Bouvines. À ton tour de t'en montrer digne. Lorsqu'il aura reçu cette épée, Bertrand sera chevalier. Courbe la tête. Chevalier, sois.
Chevalier, je suis.
La vie des enfants dans les châteaux forts au Moyen-Âge, tel qu'enseignait la télévision naguère. Ça se passe entre le père et le fils?
Oui.
Il n'y a pas de prêtre?
Non, il n'y a pas de prêtre. C'est un rituel guerrier. Le rituel de l'initiation du jeune guerrier. Mais petit à petit, là aussi, c'est comme pour le mariage, l'Église a petit à petit étendu son influence sur ce rituel, lui a assigné un lieu différent, l'Église, une veillée du jeune pendant la nuit, l'épée étant posée sur l'autel, une bénédiction, une sorte d'entrée, l'idée d'une entrée dans un ordo, dans un ordre, spirituels, si l'on veut, des chevaliers. Mais tout ceci s'est fait progressivement. Mais au départ, ça n'est pas le cas. C'est vraiment le rituel guerrier, mais qui entre dans ce corps mystique, comme vous avez dit avec raison, de la chrétienté.
Mais l'Église ne peut pas intervenir ou ne parvient pas à intervenir dans d'autres rites de la chevalerie, les rites d'entrée dans la vassalité.
Oui, alors c'est distinct de la chevalerie, c'est plutôt l'inféodation, c'est-à-dire comment un seigneur remet une terre et un château à un vassal qui lui prête allégeance, qui lui promet de lui rester fidèle, de garder ce bien, de garder cette terre pour lui, et peut-être aura-t-il la chance de le transmettre ensuite à ses fils. Mais ceci n'intéresse pas l'Église. L'Église est toujours restée en dehors du rituel de la vassalité, qui est extrêmement développé, extrêmement précis aussi, avec le seigneur qui prend les mains du vassal dans ses mains, le baiser, qui marque...
Attendez, le baiser sur la bouche.
Sur la bouche.
Sans oui, censure.
Tout baiser au Moyen-Âge est un baiser sur la bouche, entre hommes. C'est ce qu'on appelle l'osculum. L'osculum, au sens étymologique, c'est os, c'est la bouche. Donc c'est un baiser sur la bouche, c'est-à-dire un échange de souffle, d'humeur, en somme, entre les deux partenaires.
Mais là, je parle de la plus haute antiquité, au temps de l'Europe de l'Est. Donc, quand Gorbatchev baisait sur la bouche Honecker...
C'était Brejnev rencontrant Honecker, en effet.
C'était voilà. Vassalité et suzeraineté.
Et là, c'est ouais. Un peu la surprise de voir cette tradition russe alors, qui s'est maintenue.
Vous avez fait un livre sur l'invention de l'anniversaire aux éditions Arquet. Alors ça, c'est une affaire de laïc.
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, ça s'est fait... Oui, parce que anniversaire.
L'Église demande qu'on fête le nom du saint et la mort.
Et la mort.
Qu'on célèbre la mort.
Voilà. La vraie naissance pour l'Église, c'est la mort. Puisque c'est là qu'on entre ou qu'on n'entre pas au paradis. Hein, ou en tout cas, on a des chances d'y entrer. Mais petit à petit, on voit en effet un retournement, une sorte de promotion de la vie par rapport à la mort. Et c'est l'anniversaire, ce qui suppose évidemment que l'on connaisse sa date de naissance et que l'on observe chaque année. Ce rituel familial, individuel, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense qu'avant le 19e siècle, en réalité, l'anniversaire ne s'est pas encore imposé. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde ne fête pas son anniversaire.
Et le fait de fêter la fête du saint dont on porte le nom, ça, c'est plus médiéval ?
Ah oui, ça, c'est médiéval. Alors, soit le saint dont on porte le nom, soit un patron dont on n'a pas le nom, mais que l'on s'est choisi.
Alors, les laïcs et leur rôle, on a parlé des chevaliers, les villes imposent au maximum leur rituel aussi.
Voilà, et alors là, on a évidemment un lieu d'innovation extraordinaire, en rapport naturellement avec le clergé aussi, mais c'est un clergé urbain qui passe en quelque sorte au service de la communauté urbaine. Et ceci vaut dans les grandes villes italiennes ou dans les grandes villes allemandes, mais aussi à Paris, bien sûr, et d'autres villes un peu partout, à la fin du Moyen-Âge, au 14e, 15e siècle, c'est très net.
Et puis on pourrait parler des rois, le sacre.
Le sacre,
il tient du baptême de Clovis par l'Église, mais enfin, il tient du rituel romain impérial aussi.
Oui, il a beaucoup d'origine, et puis biblique aussi, naturellement. Hein, sacre des rois de l'Ancien Testament. Et petit à petit se forme cette ordo du sacre, c'est-à-dire, c'est le mot rite, en fait. Rite, ce n'est pas un mot médiéval. Hein, mais l'ordo, c'est-à-dire la normalisation de ce rituel, qui n'est pas un sacrement, mais qui est très fortement sacralisé par l'Église et qui donne sa légitimité au nouveau roi. Alors, dans chaque dynastie, chaque royaume a ses particularités. Vous avez mentionné le royaume de France avec ce modèle du baptême de Clovis qui est perçu en fait comme un premier sacre de roi de France et qui est suivi ensuite par le toucher des écrouelles. Le roi accomplit un miracle. Mais pas un miracle de saint, un miracle de roi.
Le Moyen-Âge n'est pas si loin, puisque Charles X a essayé de le ressusciter en 1824 au nom du roi. Les juges interviennent. Notre dernier son concerne l'ordalie, sur laquelle vous terminez votre réflexion sur les rites dans le dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval, Jean-Claude Schmitt, et vous allez entendre des femmes. C'est entre des femmes qu'il s'agit de juger.
Reste à nous prononcer sur l'accusation portée par Fiora Beltrami contre Hieronima Pazzi.
J'ai vu tant de haine réciproque dans les yeux de ces femmes. Jamais nous ne leur arracherons la vérité par les moyens ordinaires, ni même par les moyens extraordinaires. Je suggère humblement qu'elles soient soumises au jugement de Dieu. Je propose qu'on soumette ces deux femmes à l'épreuve de l'eau.
L'ordalie. Mais c'est une pratique d'un outrage.
Dira-t-on que les pratiques de notre sainte église catholique, apostolique et romaine sont d'un autre âge?
Avant d'en arriver à cette extrémité, mon frère.
Quoi? Ne pas demander aux principales intéressées où va leur préférence? À leur réponse, nous pourrons déjà nous faire un début d'opinion.
Hieronima Pazzi. Et toi, Fiora Beltrami, je vous offre donc d'attendre le résultat de l'enquête menée par la justice de Florence ou de vous en remettre au jugement de Dieu en acceptant de vous soumettre à l'épreuve de l'eau.
Si vous l'acceptez, dans 3 jours, vous serez lié de cordes et jeté à l'Arnaud. Et celle qui ne réapparaîtra pas à la surface sera déclarée coupable.
Je suis prête à subir cette épreuve, magnifique Seigneur. Et qu'elle me lave de l'accusation infâme portée contre moi par cette créature du malin. J'accepte l'épreuve de l'eau, mes seigneurs. J'en appelle au jugement de Dieu.
Alors vous aimez bien dans le rite ce qui est changeant et dans l'ordalie ce qui est ouvert, mouvant.
Oui, je crois que l'ordalie est un bon exemple de cette négociation dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force entre tous ceux qui assistent à l'ordalie et qui ont des intérêts, naturellement, soit d'un côté, soit de l'autre. Et ceci est très important pour l'interprétation même du résultat de l'ordalie. Est-ce que la personne flotte ou est-ce qu'elle sombre dans l'eau? Est-ce que la personne est brûlée ou est-ce qu'elle ne l'est pas après avoir tenu un fer rouge en main? Et combien de temps l'a-t-elle tenu pour ne pas être brûlée, etc. Donc toutes sortes de négociations, de manipulations possibles du rituel sont présentes. Dans ce rituel, qui a une histoire en effet, et qui correspond à un état de la procédure qu'on appelle accusatoire, caractéristique du Haut Moyen-Âge, et qui disparaît à partir du Moyen-Âge central au profit de la procédure inquisitoire. À ce moment-là, c'est la justice qui enquête, c'est la justice qui fait le travail, et on relègue les ordalies dans les antiquités dont on n'a plus besoin.
Dans l'extrait qu'on a entendu de la Florentine, on a bien vu que les femmes préféraient à l'enquête faite dans le secret l'ouverture que laissait l'ordalie. Les femmes, d'ailleurs, leur rôle dans les rituels,
oui, alors,
dans leur transformation ou leur intimisation, je parle français.
Elles peuvent être évidemment complètement tenues à l'écart. Il n'y a pas de femmes prêtres, comme on sait. Mais elles peuvent aussi jouer dans d'autres rituels un rôle important. Et on les accuse notamment de sorcellerie. De sorcellerie, de magie. Cela dit, c'est une question, là encore, de légitimité de l'action par des hommes qui sont les clercs et qui peuvent juger. Y a-t-il en nature une grande différence entre le canon de la messe sur lequel on a commencé et des pratiques de sorcellerie ou de magie? Ça n'est pas absolument évident.
J'essaierais plutôt sur le rapprochement avec les pratiques d'oraison privée des femmes dans les béguinages.
Oui, dans les béguinages, dans ce qu'on appelle la devotio moderna, il y a toute une ritualisation, cette fois individuelle, qui se crée autour, par exemple, de la flagellation, de la récitation du rosaire, de pratiques de dévotion de ce genre.
Merci à vous, Jean-Claude Schmitt. Vous avez très bien tenu le rythme. J'emploie le mot rythme pour finir cette émission sur les rites, parce que votre prochain livre que vous écrivez à un train de sénateur, c'est sur les rythmes. On l'attend avec impatience. Demain, on va courir vite. Racing Club de Lens, une histoire sociale, ce sera le thème de la marche de l'histoire réalisée par Jacques Sigal avec Dimitri Gronoff à la technique. La préparation, Frédéric Martin, Franck Olivard, Zachary Boubli et Ilinka Negulesco. Daniel Fievet, on a eu la semaine dernière les arbres remarquables et aujourd'hui le programme de la tête au carré.
Ce sont les oiseaux remarquables. Les noms d'oiseaux vont fuser dans la tête au carré aujourd'hui, Jean Lebrun.
Ça va scorer, comme disait il y a un instant Claire Servageant. Vous retenez le mot, hein,
oui,
Daniel.
Je retiens. Oui.
Mais avant, un petit peu de publicité.